9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors on peut décliner AVS, mais ça marche pas pour le cerveau. Donc AVS, c'est à votre santé. Bonjour et bienvenue. Mon invité vient d'Italie, il s'appelle Paolo Bartolomeo. Bienvenue. Vous êtes neurologue et directeur de recherche à l'INSERM et vous êtes spécialiste des troubles de l'attention. Vous publiez « Pensée droit, attention, empathie, émotion, les vrais talents de votre cerveau droit » et c'est chez Flammarion. Alors, vous vous faites sauter un mythe. Il y a une croyance populaire qui dit que le caractère d'un individu dépendrait de la région du cerveau qu'il utilise le plus. Donc, on aurait ceux qui sont créatifs et puis ceux qui sont plus analytiques. Bon, est-ce que c'est une, selon vous, cette présentation des choses qu'on retrouve sur beaucoup de tests? D'ailleurs, si vous tapez cerveau droit, cerveau gauche, vous aurez des tests qui vous permettent de dire si vous êtes plutôt cerveau droit ou cerveau gauche. Est-ce que cette présentation des choses vous va?
Pas tout à fait, parce que ça n'a en effet aucune base scientifique.
C'est trop simpliste pour vous?
Oui, c'est très simpliste. Mmh. Et ça vient des études des années 60 du siècle dernier où on étudiait des patients qui subissaient la coupure du système de fibres qui fait parler les deux hémisphères du cerveau. Hein, un système qui s'appelle les corps calleux. C'est une autoroute qui fait parler très rapidement.
Les corps calleux, donc c'est les jonctions, quoi, en fait, finalement.
Exactement.
C'est ce qui va de l'un à l'autre.
Entre les deux moitiés gauche et droite du cerveau. Et c'est très important parce que ça nous fait, disons, dans l'état normal, c'est ce qui nous fait utiliser les deux moitiés du cerveau au même niveau.
Ce qu'il faut comprendre de cette émission, c'est ça.
Oui. Presque instantanément, un hémisphère communique avec l'autre grâce au corps calleux. Cela dit, comme j'ai dit, il y a certains cas très rares, il faut dire, d'épilepsie qui ne répond pas aux médicaments, dans lesquels on coupe ce système de fibres pour éviter la diffusion des crises d'épilepsie dans le cerveau. Et dans ces cas-là, on peut observer un peu ce que font les deux hémisphères isolés.
Parce que dans ces cas-là, on observe le cerveau avant, pendant quelques temps, avant d'intervenir.
Oui, mais ça, on a beaucoup déjà de données. On avait déjà beaucoup de données sur ce qui se passe dans le cerveau normal. À partir donc de ces études-là, qui ont ensuite donné le prix Nobel à Roger Sperry en 1981, on a vu ce qui s'est passé dans les deux hémisphères séparés. Mais encore une fois, c'est une situation très particulière. Hein, dans la vie normale de tous les jours, il n'y a pas d'hémisphère créatif et d'hémisphère logique. Les deux hémisphères marchent en même temps.
Donc, l'idée de dire que le cerveau gauche, c'est le cerveau analytique, et on l'entend, c'est très répété, et que le cerveau droit, c'est le cerveau des créatifs, ne repose sur rien de scientifique. C'est ça que vous voulez dire?
Oui. Même quand on fait ces études chez les patients avec les cerveaux, les split brain, ce qu'on appelle les cerveaux divisés, on voit que c'est une distinction simpliste. Pour être créatif, maintenant, on le sait bien, on a besoin de deux hémisphères. Hein. On a besoin des capacités de l'hémisphère gauche qui, lui, c'est vrai, il s'occupe surtout du langage. Hein. Pour parler, nous avons besoin de l'hémisphère gauche du
cerveau. D'accord. C'est-à-dire que le siège de la parole serait le cerveau gauche, c'est ça?
Tout à fait. Pour parler, d'autres aspects du langage, comme la prosodie, par exemple, quand nous suivons, la musique de la phrase, ça, pour cela, on utilise aussi l'hémisphère droit. Hein. Mais pour parler, pour construire une phrase, et pour lire, par exemple, on utilise surtout l'hémisphère gauche. Ça, on le sait aussi depuis très longtemps, et ça, c'est vrai. Mais, encore une fois, pour des capacités aussi complexes comme la créativité, la logique, ou quoi que ce soit, on a besoin de deux moitiés du cerveau. Et on utilise normalement les deux moitiés du cerveau.
Alors, il y a un autre consensus qui dit que les deux hémisphères du cerveau ne traitent pas les émotions de la même manière et que les émotions seraient asymétriques. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Alors, ça, c'est vrai. Et on les voit surtout à partir des cas des patients qui ont une lésion dans l'une des moitiés du cerveau. Si on a la malchance d'avoir une lésion, par exemple, dans l'hémisphère gauche, on peut avoir des problèmes, par exemple, de langage. Hein, on peut ne plus parler comme avant. Mais normalement, on traite, les émotions restent plus ou moins normales. Par contre, si on a une lésion de l'hémisphère droit, à ce moment-là, on se rend compte que les patients ils peuvent être assez indifférents à ce qui leur est arrivé. Par exemple, ils peuvent avoir une hémiplégie gauche, c'est-à-dire ils peuvent ne plus bouger toute la moitié gauche du corps, parce que chaque moitié du cerveau contrôle la moitié opposée du corps.
Alors ça aussi, c'est quelque chose d'important à comprendre, ouais. C'est que le cerveau fonctionne de façon croisée.
Tout à fait, oui. Mais on ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est comme ça un peu dans toutes les espèces animales. Et donc, je disais, ces patients qui ne peuvent plus bouger la partie gauche de leur corps peuvent être complètement indifférents à leurs troubles. Hein, donc avoir une réaction émotionnelle inappropriée, en effet, à leurs troubles. Et ces données et d'autres ont fait dire qu'en effet, dans le cerveau droit, il y a des circuits qui sont très importants pour les émotions. Ce n'est pas que dans le cerveau gauche, il n'y a rien qui traite les émotions. Hein, ce n'est pas une distinction aussi nette comme pour le langage. Mais probablement, les circuits de l'hémisphère droit sont plus importants pour le traitement des émotions par rapport au circuit de l'hémisphère gauche.
Alors, notre cerveau possède bien deux hémisphères distincts, à première vue symétriques. Mais ils ne sont pas asymétriques, ils sont asymétriques. Donc qu'est-ce que on doit comprendre de cette asymétrie?
Disons qu'il y a, c'est surtout une asymétrie fonctionnelle. Il y a aussi des toutes petites asymétries anatomiques, mais bon, c'est pas très important ici. Mais c'est surtout des asymétries fonctionnelles. Donc on sait par exemple que, comme on a dit, l'hémisphère gauche est important pour le langage. L'hémisphère droit, c'est un peu plus difficile de saisir ses fonctions. Et pendant longtemps, on n'a pas compris qu'il y avait des fonctions relativement spécifiques de l'hémisphère droit. On a vu les émotions. Il y a aussi l'attention, surtout l'attention dans l'espace.
Hein, si alors vous êtes justement un spécialiste des troubles de l'attention.
Oui, parce que encore une fois, les patients qui ont des lésions de l'hémisphère droit, ils peuvent montrer un trouble malheureusement assez fréquent et très invalidant qui s'appelle négligence spatiale unilatérale. Ces patients ne prêtent plus attention à ce qui se passe dans la partie gauche de l'espace. Hein, c'est comme si la moitié gauche du monde n'existait plus. Pour eux. Donc, ils se cognent contre la partie gauche des portes et des murs. Ils ne mangent pas de la partie gauche de l'assiette. Ils ne répondent pas quand ils sont interrogés du côté gauche ou alors ils répondent à quelqu'un d'autre qui est du côté droit. Et bon, j'étudie ce type de troubles depuis bien longtemps, depuis ma thèse de médecine, en effet. Et on discute toujours sur les mécanismes. Mais une chose est certaine, c'est surtout les patients avec lésion hémisphérique droite qui montrent ce type de troubles.
Alors, ça fait longtemps que vous travaillez justement sur les troubles de l'attention, mais qu'est-ce que les neurosciences vous ont apporté, vous, dans la compréhension des troubles de l'attention et dans la façon dont elles fonctionnent?
Une chose importante qui a été découverte par beaucoup de groupes, dont notre groupe ici à Paris, est que, par exemple, ce type de troubles de l'attention ne dépendent pas de la lésion d'un endroit spécifique, d'un endroit précis du cortex de l'hémisphère droit, comme on pensait autrefois. On voit que c'est des vastes réseaux qui vont de l'avant à l'arrière du cerveau et qui sont liés par des faisceaux de substances blanches, un peu comme les corps calleux entre les deux hémisphères. Il y a aussi des autoroutes qui font parler la partie antérieure et la partie postérieure du cerveau dans chaque hémisphère. Et on a vu que c'est plutôt le dysfonctionnement de ces vastes réseaux qui vont de l'avant, donc à l'arrière du cerveau, qui donnent ces troubles de l'attention.
C'est ce que vous appelez le réseau ventral de l'attention?
Alors, il y a eu cette distinction, effectivement, entre un réseau ventral, c'est-à-dire plus en bas, au point de vue anatomique.
Oui, c'est pour ça que ventral, d'accord.
Ouais, ouais. Et effectivement, c'est surtout un réseau qui est assez en bas dans le cerveau, dont la dysfonction provoque cette négligence, ou la communication entre ce réseau ventral et un réseau plus dorsal, plus en haut dans le cerveau, qui nous permet d'orienter notre attention dans l'espace.
Est-ce que nous sommes tous égaux, justement, dans notre système d'attention?
Alors, ça, c'est une question difficile. Disons, pour la plupart d'entre nous, ça marche comme ça. Après, il y a toujours des exceptions, il y a des différences individuelles dans des petits groupes d'individus, effectivement. Ça peut marcher un peu différemment. Mais disons, dans la grande, chez la grande majorité des gens, ça marche comme ça.
Parce que l'attention, vous l'utilisez tous les jours, notamment, par exemple, si on prend la route quand vous conduisez.
Absolument, absolument. C'est très important.
Vous pensez que vous êtes attentif à la route, ouais. Et puis bim, il y a un SMS ou un coup de téléphone qui arrive, bim, bim.
Exactement, ça s'appelle distraction. Ouais. Et c'est une cause importante d'accident de la route, peut-être l'une des choses, des causes les plus importantes d'accident.
Même si vous pensez pouvoir contrôler votre attention.
Eh oui, parce que on a justement ce que ce réseau ventral de l'attention pourrait faire dans l'hémisphère droit, selon certaines hypothèses, est de nous donner la possibilité de réagir rapidement à un stimulus inattendu, à quelque chose qu'on n'attend pas. Hein, on traverse la rue, il y a une voiture qui arrive, on ne l'attend pas. Si on arrive à s'échapper, c'est peut-être grâce à ce réseau ventral qui nous permet de répondre à des situations imprévues, rapidement.
Il y a des expériences qui existent. Hein. Il y a l'expérience notamment du singe qui arrive au milieu d'une scène inattendue.
Oui, c'est assez spectaculaire.
C'est ce qu'on appelle des phénomènes de captation ou de diversion de l'attention.
C'est assez spectaculaire parce que donc ce que ces psychologues ont fait, ont montré à des gens une scène où deux équipes de jeunes se passent une balle. Et il fallait compter l'une avec des maillots blancs, l'autre avec des maillots noirs. Il fallait compter le nombre de fois où la balle était passée. Donc c'est une tâche relativement difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à suivre dans la scène. Ce que les scientifiques ont fait, sans que les sujets qui regardaient cette scène le sachent, ils ont introduit une actrice, en effet, en costume de gorille qui est passée devant la scène. Il a fait le geste du gorille en se tapant la poitrine et est sorti. Et un très bon pourcentage de spectateurs ne s'est pas rendu compte qu'il y avait cet événement assez frappant. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils étaient concentrés, leur attention était concentrée, focalisée sur le fait qu'il fallait compter donc le nombre de passages de la balle. Donc même un événement très saillant n'a pas pu attirer leur attention. Donc dans ces cas-là, dans ces cas spécifiques, il y a eu une défaillance de ce réseau probablement ventral de l'attention qui nous permet de voir des choses qu'on n'attend pas.
Ce sont des procédés qui sont ensuite utilisés, hein, les détournements d'attention par les pickpockets par exemple.
Absolument.
Par les communicateurs hein, aussi qui l'utilisent.
Absolument, ou par les prestidigitateurs, c'est leur technique.
C'est leur base, les magiciens, ouais. Aujourd'hui les grands illusionnistes, ils détournent votre...
Exactement, ouais, ils sont très bien pour cela.
Ce qu'on peut appeler regarder sans voir finalement.
Exactement, c'est ça. L'un des enseignements qui nous vient vraiment de cette organisation du système de l'attention est que voir, ce n'est pas... prendre la scène comme dans une caméra, hein, ce n'est pas enregistrer ce qui se passe autour de nous. On ne voit que ce à quoi on prête attention. Hein, donc on peut être complètement aveugle, même en voyant parfaitement, en ayant une acuité visuelle parfaite, si notre attention ne marche pas bien.
Et finalement, tout ça, est-ce qu'on peut dire que c'est le cerveau droit qui est la clé de l'attention?
Alors, c'est pas exclusivement le cerveau droit, mais certainement il y a des circuits, comme ces circuits de l'attention dont on parlait tout à l'heure, qui sont très importants pour ça.
On vous demande de nous prêter attention ce matin, puisqu'on parle du cerveau. Beaucoup de mythes qu'on entend, d'ailleurs vous pouvez regarder la littérature, elle existe. Il y a beaucoup de livres justement qui parlent du fameux cerveau droit et du cerveau gauche, de leur supposée qualité. Vous êtes notre invité jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec des mythes sur le cerveau qui tombent ce matin, mon invité est Paolo Bartolomeo. Vous êtes neurologue et directeur de recherche à l'INSERM. Vous êtes spécialisé des troubles de l'attention et vous publiez Pensée droit, attention, empathie, émotion, les vrais talents de votre cerveau droit aux éditions Flammarion. Donc on disait tout à l'heure que selon la croyance populaire, le caractère d'un individu dépendrait de la région du cerveau qu'il utilise le plus. C'est faux, puisqu'on utilise... En gros, les deux hémisphères de notre cerveau de la même façon.
Oui, en situation normale, c'est toujours comme ça. Ouais.
La matière grise, elle se trouve où? Ce qu'on appelle la matière grise.
Donc, il y a, disons, une partie très importante dont on discute beaucoup, c'est le cortex. C'est la partie extérieure du cerveau qui est beaucoup qui suit un effet de pli pour augmenter sa surface. Si on dépliait le cerveau, ça serait quelque chose d'assez vaste, justement pour que le cortex puisse avoir toute cette étendue. Il y a des plis dans le cerveau, et donc le cortex est une partie importante de la substance grise, que l'on appelle grise parce que elle est grise quand on la regarde comme ça dans son cerveau.
C'est pour ça qu'on l'appelle la matière grise, en fait.
Ouais. En plus, il y a aussi d'autres régions de matière grise à l'intérieur du cerveau, des noyaux, les thalamus et d'autres noyaux qui sont très importants pour coordonner l'activité du cortex. Mais ce que l'on étudie beaucoup, au moins dans notre groupe, c'est plutôt la communication entre différentes régions de la matière grise qui se fait grâce à la matière blanche. Et la matière blanche, c'est justement ce faisceau des fibres nerveuses dont on parlait avant, c'est-à-dire le corps calleux entre les deux hémisphères et les grosses autoroutes, les grandes autoroutes qui font parler la partie antérieure avec la partie postérieure du cerveau.
On sait aujourd'hui comment les deux côtés du cerveau se complètent et s'associent. On arrive à bien le savoir, ça?
On a eu beaucoup d'avancées grâce à la neuroimagerie fonctionnelle surtout, et grâce à laquelle on peut voir effectivement comment les deux moitiés du cerveau se parlent pendant une tâche cognitive, par exemple.
Vous êtes d'accord pour dire que le cerveau, c'est un muscle, et que comme un muscle, plus on le fait travailler, plus il se développe ou pas?
Oui, c'est pas un muscle dans le sens qu'il n'y a pas de mouvement visible, disons, dans le cerveau, mais l'entraînement, c'est sûrement important comme pour les muscles du squelette, et c'est un entraînement cognitif. Donc, essentiellement, la lecture, par exemple, l'écoute de la musique, ça j'y tiens beaucoup à le préciser.
Alors, il y a des expériences qui ont été faites, ouais, justement pour l'écoute. Alors, ça se trouve dans quel cerveau, finalement, dans quelle partie du cerveau,
ça, c'est
le fait qu'on écoute de la musique et qu'on y soit sensible?
Ouais. C'est encore une fois une chose qui se trouve dans les deux moitiés du cerveau, mais pour laquelle le cerveau droit semble avoir quelques spécialisations de plus. Par exemple, on a vu que il y a une petite partie de la population normale, par ailleurs, qui n'arrive pas à jouir de la musique. Ils n'aiment pas. Ça leur dit rien. C'est ce que l'on appelle les amusiques, du alpha privatif, ouais, en grec. Et on a vu que chez ces personnes, il y a des petits dysfonctionnements au niveau de l'hémisphère droit, surtout, dans un circuit qui est l'homologue du circuit gauche pour le langage. Donc c'est très intéressant, parce qu'à gauche, c'est un circuit qui sert à parler. À droite, ça sert probablement à plusieurs choses, dont la capacité d'apprécier une mélodie, par exemple. Et ces personnes ont des petites anomalies dans ce circuit. D'ailleurs, s'il y a un AVC, un accident vasculaire cérébral, dans ce circuit, dans l'hémisphère droit, on risque d'avoir la même chose, de ne plus s'apprécier, pouvoir apprécier la musique, au moins les mélodies dans la musique.
Et pour lire une partition, puisque vous vous posez également la question, c'est de savoir quelle est la partie du cerveau qui est sollicitée pour pouvoir lire et jouer une partition.
Donc chez les musiciens, c'est encore une fois les deux moitiés du cerveau cette fois, parce que on a besoin du circuit, des circuits qui ressemblent beaucoup au circuit de la lecture des lettres, des mots, qui sont très proches.
Alors,
dans le cerveau gauche.
La lecture, c'est à gauche, c'est ça?
Ouais. La lecture, c'est surtout à gauche. Mais on a besoin aussi de circuits qui sont dans l'hémisphère droit pour lire la musique. Et moi, je pense, bon, c'est une hypothèse à démontrer, mais un jour, j'aimerais y travailler, que la musique, c'est vraiment un ambitus qui fait parler les deux hémisphères d'une façon très efficace.
Inné ou acquis?
Ah, ça, c'est un gros problème. Probablement, il y a les deux parties. Donc, inné sûrement, comme on le voit chez les malheureux qui n'ont pas cette capacité, chez les amusiques. Donc, il faut quelque chose d'inné dans le cerveau. Et on le voit aussi chez les nouveau-nés.
C'est pour ça que je vous pose la question, puisque l'expérience a été menée sur des nouveaux-nés.
Oui, il y a eu une expérience passionnante menée en Italie, à Milan, On a montré que chez le nouveau-né, il y a des gens qui dormaient paisiblement dans la machine d'IRM où on faisait ce test de neuroimagerie fonctionnelle. On leur faisait écouter des morceaux de musique avec parfois des choses bizarres, des dissonances ou des changements qu'on n'attendait pas. Et leur cerveau était sensible à ce type de manipulation. Donc ça veut dire que déjà, on a effectivement un sens inné des mélodies, des consonances dans la musique. Mais en plus, il y a bien sûr une énorme partie aussi culturelle. On les voit très bien dans la vie de tous les jours, dans les grosses différences de goût qu'on peut avoir pour la musique.
J'aime beaucoup les expériences que vous relatez dans votre livre parce que ça nous aide un petit peu à comprendre. De plus en plus, nous sommes entourés de machines qui nous aident à la décision, qui travaillent à notre place. Aujourd'hui, on a des annuaires téléphoniques, ce qui fait qu'on ne connaît plus certains numéros de téléphone par cœur. Et puis, le GPS a remplacé la carte où il fallait se diriger. Et pour certains chauffeurs de taxi, la mémorisation par cœur des rues de Paris. Et donc, une expérience a été menée pour savoir ce que ça donnait dans le cerveau entre quelqu'un qui utilise son GPS et quelqu'un qui fait l'effort de mémoriser le plan des rues de Paris ou de Londres ou d'une ville.
Ouais. Oui, avant cela, il y a eu des expériences assez spectaculaires chez les chauffeurs de taxi de Londres, qui est une ville très compliquée, plus compliquée que Paris, en effet. Et là, on a vu qu'il y avait que chez ces chauffeurs qui venaient d'un long apprentissage pratique des rues de Londres, il y avait apparemment des modifications dans des régions du cerveau qui sont un peu à l'intérieur du cerveau. On l'appelle l'hippocampe, parce que ça ressemble à un hippocampe, un poisson, comme forme.
Et on en a combien des hippocampes?
Deux. Un à gauche et l'autre à droite. Et surtout dans l'hippocampe de droite, pas exclusivement, mais surtout à droite, il y avait des modifications acquises, évidemment, chez les chauffeurs des taxis de Londres. C'est-à-dire qu'il y avait un peu plus de masse de cellules nerveuses. Probablement, le nombre de cellules nerveuses étaient les mêmes, mais les connexions probablement étaient augmentées grâce à cet apprentissage. Ensuite, ce qu'on a vu, oui, c'est à quoi vous faites référence, c'est que dans une situation plutôt artificielle, en effet, dans la machine, on montrait à des sujets donc des cartes et on leur demandait de négocier un itinéraire sur ces cartes en utilisant soit un mécanisme type GPS, tourne à gauche, tourne à droite, soit en utilisant leur propre GPS, il y avait des petites différences d'activation, effectivement, dans ces régions importantes pour l'orientation dans l'espace. Cela dit, la conclusion de cet article est, voilà, on utilise le GPS, on va perdre nos capacités de navigation.
Est-ce que si on utilise un GPS, si on utilise une machine à calculer, par exemple, est-ce qu'on va réduire les capacités de notre cerveau ou pas?
Bon, on n'a pas de réponse précise parce qu'il n'y a pas d'études bien contrôlées sur ça. Donc, on n'a pas de réponse scientifique. Mais si on pense par analogie, on devrait dire, alors, si on lit des livres, on perd la mémoire, comme Platon, effectivement, déjà avait suggéré. C'est des prothèses cognitives qui, normalement, nous aident. C'est pas dit qu'elles comportent aussi la perte de nos habiletés, nos capacités naturelles.
Bien. Donc ça, point d'interrogation.
Ouais.
On ne sait pas.
On ne sait pas
si les machines sont les amis ou les ennemis des capacités de notre cerveau.
Ça dépend aussi de la façon où nous les utilisons et d'autres façons que nous pouvons avoir d'entraîner notre cerveau.
Moi, je suis champion du monde de lecture rapide. Donc je lis à peu près. Je vous remercie, mais je voudrais essayer de comprendre si vous avez fait des études sur finalement quelle est la vitesse à laquelle un cerveau peut-il lire et comprendre l'information. Est-ce que ça, parce que moi je me suis rendu compte que plus on lisait vite et plus on comprenait, alors que la plupart des gens pensent que plus on lit vite et moins on comprend. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites là-dessus et dans quelle zone du cerveau s'est activée finalement cette capacité?
Des études spécifiques, pas à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a, mais j'en suis pas au courant. On sait qu'il y a un système de lecture dont on connaît pas mal de détails grâce à des études faites notamment à Paris par Laurent Cohen et Stanislas Dehaan, on sait qu'il y a donc dans le cortex visuel de haut niveau, c'est-à-dire c'est un cortex qui est au bas du cerveau et ça sert à identifier les choses. Ça sert pas simplement à voir des lignes ou des figures élémentaires, mais ça sert à identifier des objets ou des visages ou des mots. Mm. Hein? Et on sait que ce cortex fait parler le système visuel avec le système du langage. Et quand ça marche bien, ça permet par exemple de lire un mot en entier en identifiant toutes les lettres en parallèle. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'identifier les lettres, chaque lettre, pour lire. Hein, mais simplement que ce bout de cortex est très efficace, peut-être pour connecter donc la vision avec les langages, pour nous permettre effectivement une lecture très rapide. Quand il y a des problèmes dans ce bout de cortex, qui est dans l'hémisphère gauche, cette fois, quand il y a des problèmes, les patients peuvent lire... certains de ces patients peuvent lire toujours, mais lettre par lettre. Hein, c'est-à-dire, par exemple, le mot « maison », ils lisent « M-A-I-S-O-N » et ensuite ils arrivent à dire « maison ».
Mais ils ont besoin d'abord de déchiffrer lettre.
Identifier chaque lettre à la fois, peut-être en utilisant d'autres circuits qui eux servent à l'identification des objets qui sont aussi dans l'hémisphère droit. Ils pourraient aussi, une fois on a étudié une patiente comme ça qui a eu un premier AVC qui l'a rendu alexique de cette façon-là, elle lisait lettre par lettre. Ensuite, elle était en train de récupérer, mais malheureusement, elle a eu un deuxième AVC, cette fois dans l'hémisphère droit, dans la région homologue à celle de la lecture dans l'hémisphère gauche. Et à ce moment-là, malheureusement, elle a perdu tous les progrès qu'elle était en train de faire. Cela suggère que chez ces patients, c'est peut-être donc des régions de l'hémisphère droit qui compensent pour les déficits de lecture et leur permet au moins de lire lettre par lettre.
Vous m'intéressez là sur la reconnaissance des visages. Vous expliquez dans votre livre comment se met en place la reconnaissance des visages familiers, qui fait qu'un jour, on n'a même plus de... C'est instantané.
Tout à fait.
On reconnaît... Comment ça fonctionne, ça?
C'est une autre capacité étonnante du cerveau, parce que, bon, si on y pense...
C'est quoi? C'est un encodage? C'est...
Alors, il y a une étude récente chez les singes, à qui on a montré des visages humains. Hein, les macaques, apparemment, sont très bons pour identifier des visages humains. Et on a étudié des régions pas loin des régions de la lecture dont je vous ai parlé.
C'est pour ça que j'enchaînais là-dessus.
Oui, vous avez tout à fait raison. Mais qui sont surtout chez l'homme, pas chez les macaques, dans l'hémisphère droit. Et qui nous permettent donc d'identifier des visages très rapidement. Et dans cette expérience spectaculaire, ils ont enregistré certains neurones donc chez les macaques. Chez l'homme, ça, c'est plus difficile à faire. Pendant qu'on leur montrait des visages, et ils ont pu ensuite identifier les visages qu'ils leur avaient montrés sur la base de l'activité de ces neurones. Donc, c'est effectivement une expérience.
Et pourquoi c'est plus difficile à réaliser chez l'homme comme expérience, ça?
Parce qu'il faut mettre des électrodes dans le cerveau.
D'accord.
Donc, chez l'homme, c'est un peu invasif. Ça se fait parfois chez les patients épileptiques. Mais bon, pour des raisons cliniques, bien sûr.
C'est passionnant, hein, Paolo Bartolomeo est notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, il s'appelle « Pensez droit ». Donc attention, l'empathie, les émotions, les vrais talents de votre cerveau droit. L'éditeur, c'est Flammarion et vous êtes avec nous jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
On parle du cerveau aujourd'hui avec mon invité Paolo Bartolomeo, qui est neurologue et directeur de recherche à l'INSERM. Vous êtes spécialiste des troubles de l'attention et vous publiez « Pensez droit ». Attention, empathie, émotion, les vrais talents de votre cerveau, c'est aux éditions Flammarion. Notre cerveau, écrivez-vous, est le résultat de centaines de millions d'années d'évolution. Et on est quand même très loin aujourd'hui de la théorie des trois cerveaux. Mais qui n'est pas vieille, en fait. C'était à quoi, 60 ans?
Les années 50, je pense.
Oui, 50.
Je ne me souviens plus exactement. C'est MacLean qui
avait proposé. C'était 60 ans, ouais.
Et
cette idée de finalement, et que tout le monde pense encore aujourd'hui, hein, du cerveau droit, du cerveau gauche, c'est assez récent. Est-ce que ça remet en cause les travaux de Roger Fleury ou pas? Ça,
Roger Sperry.
Comment vous l'appelez?
Sperry.
Sperry. Mm. Ouais.
Pas du tout, non. Ces travaux sont très importants et sont à la base de beaucoup de choses que nous faisons maintenant. Ce qui s'est passé est que, j'essaie de le raconter un peu dans mon livre, est que ça a été un peu un malentendu de la part du public général, des artistes surtout de certains artistes visuels qui ont pris donc les résultats de Sperry un peu au premier degré, sans trop y réfléchir au point de vue neuroscientifique. Et comme donc ces patients de Sperry montraient effectivement des grosses différences de comportement entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, ils en ont conclu qu'il y avait les mêmes différences même chez les gens qui ont une connexion entre les deux hémisphères. Donc,
c'est une mauvaise interprétation, un malentendu, donc.
Exactement, oui. Des données qui sont bien réelles et très importantes pour nous. Il y a les cas, par exemple, de... une chose sur laquelle Sperry, celui qui était son étudiant à l'époque, maintenant il est un grand chercheur de neurosciences, qui est Mike Gazzaniga, ils ont pu montrer une image, par exemple, chez ces patients avec au cerveau divisé à l'hémisphère gauche ou à l'hémisphère droit. Si on montre des images latéralisées très rapidement chez ces patients, c'est seulement un hémisphère, l'un des deux hémisphères, qui les prend en compte. Donc, champ visuel gauche, hémisphère droit, champ visuel droit, hémisphère gauche, tout est croisé. Et ils ont vu, par exemple, que l'un de ces patients... Ils lui ont montré une canette de coca à son hémisphère droit, qui ne pouvait pas parler. Le patient s'est levé et est allé chercher à boire une canette de coca à l'extérieur. Et ensuite, Mike Gazzaniga lui a demandé, mais pourquoi vous êtes levé? Qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, j'avais soif. Et là, c'est l'hémisphère gauche qui a essayé d'expliquer un comportement qu'il ne comprenait pas, parce qu'il n'avait pas vu la canette de coca. Et, donc, il a construit une histoire, une véritable confabulation, pour pouvoir expliquer ce qui s'était passé, les comportements, en effet, du patient. L'hémisphère gauche, il avait vu seulement les patients se lever et aller chercher, disons, lui-même se lever, aller chercher à boire. Et donc, il a dû créer une explication pour cela.
Une récente opération médicale a été médiatisée, hein. C'était l'opération d'une tumeur du cerveau, d'une violoncelliste, donc qu'on a réveillée pendant l'opération pour vérifier en temps réel les zones du cerveau qui étaient responsables du mouvement de ses mains.
Ouais, ça c'est des techniques qui sont très importantes au point de vue clinique tout d'abord.
C'était justement pour pas faire des dégâts irréparables. Exactement. Et qui auraient altéré sa capacité à jouer du violon.
Ouais. Et donc on réveille les patients pendant l'intervention quand il faut enlever une tumeur du cerveau. Donc c'est des tumeurs qui sont normalement bénins au point de vue histologique, mais qui ont malheureusement tendance à revenir. Donc il faut enlever le plus possible des tissus sans donner de déficit post-opératoire. Et donc pour cela, le neurochirurgien peut réveiller les patients. Pendant l'intervention, le cerveau n'a pas de récepteur à la douleur. Ça suffit de faire un peu d'anesthésie locale sur les méninges. Et il peut demander aux patients de faire des tâches. Nous avons eu l'opportunité de faire cela justement pour étudier la négligence à l'hôpital de la Salpêtrière il y a quelques années. Et nous avons demandé aux patients de faire une bisection de lignes, qui est une tâche de négligence, c'est-à-dire de trouver les milieux, de marquer les milieux d'une ligne horizontale. Et nous avons vu que quand le chirurgien donne des petites stimulations électriques dans les régions du cerveau qu'il voudrait enlever, il met des étiquettes ensuite sur la région pour être sûr donc de l'identifier par la suite. Les étiquettes, il les enlève avant de refermer la
boîte crânienne.
La boîte crânienne, exactement. Et c'est cela qui nous a permis de voir que des signes de négligence, c'est-à-dire la déviation à droite en bisection des lignes, étaient provoqués surtout par la stimulation, donc l'inactivation transitoire de la substance blanche, de ce faisceau de substances blanches qui font parler les pariétales au avec les frontales. Donc ça, ça a été vraiment pour nous une des données très directes sur l'origine de la négligence. Et en plus, ça a permis au chirurgien, il nous a remercié par la suite parce qu'il a, il nous a dit si ça n'avait pas été pour vous, j'aurais coupé cette voie de substance blanche. Et je l'ai respecté et effectivement, les patients n'a pas montré des signes de négligence.
Alors, après est-ce que vous avez la gentillesse de nous expliquer ce que c'est que la négligence d'un point de vue médical?
Oui, c'est ce que je vous disais un peu avant, c'est-à-dire les manques d'attention pour la partie gauche de l'espace après une lésion de l'hémisphère droit. Et cette, ça peut être très invalidante parce que bon, vous pensez bien que quelqu'un qui ne s'oriente jamais du côté gauche ne peut pas avoir une vie autonome. Mmh. Il a besoin d'assistance continuelle.
On pourrait être paralysé d'un côté et ne pas s'en rendre compte?
Voilà, c'est l'autre chose qui se passe typiquement après une lésion de l'hémisphère droit et pas tellement après une lésion de l'hémisphère gauche. Et donc, c'était découvert ici à Paris par Babansky, qu'il a appelé anosognosie, c'est-à-dire le manque de conscience du déficit de la maladie, ça vient du grec. Et Babinski, il a vu, c'était deux patientes dans son papier original, qui étaient complètement paralysées du côté gauche, mais n'en avaient pas conscience. Ils pensaient d'être parfaitement normales. Et on les voit assez souvent, on demande à ces patients, mais pourquoi vous êtes hospitalisés? Et ils peuvent vous dire, oui, non, tout va bien, je suis tombé en effet, je fais une petite chute, mais sinon tout va bien. Si vous leur demandez maintenant bougez votre main gauche, les patients bougent son bras droit et ainsi de suite. Ils peuvent faire même des confabulations, donc un peu comme les patients de Gazzaniga pour la canette de coca. Ils peuvent faire,
ils donnent une explication s'il l'a pas.
Exactement, ouais. Exactement. Ils donnent une explication. C'est pas fait consciemment, hein. C'est vraiment un mécanisme. Probablement c'est l'hémisphère gauche. C'est ce que nous pensons, qui donne des explications pour des choses qu'il ne comprend pas, un peu comme ça se passe chez les patients avec cerveau divisé.
Bon, devinette, qu'est-ce que les chiens, les poussins et les sèches nous disent de notre cerveau droit?
Alors, ça, c'est une problématique fascinante parce que jusqu'à il y a peu, on pensait que cette division du travail entre les deux hémisphères, pour l'attention, par exemple, ou pour les émotions, était exclusivement humaine. Et depuis quelques décennies, on commence à voir que même des animaux très loin de nous, hein, comme les sèches par exemple, pourraient avoir une organisation qui rappelle un peu de loin celle du cerveau humain. Par exemple, chez les sèches, ça a été vu ici en France, en Bretagne, qu'ils utilisent la partie droite de leur système nerveux, surtout quand elles doivent s'échapper d'un prédateur, hein, donc quand il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, un peu comme le réseau ventral de l'attention dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Alors qu'ils utilisent plutôt la partie gauche de leur système nerveux quand ils doivent manger quelque chose, ils doivent chercher quelque chose à manger. Donc c'est une activité plutôt des routines, hein, pas urgente. Donc peut-être, on n'en sait rien, hein, c'est très tôt pour pouvoir conclure sur cela, et il y a beaucoup de discussions sur ça, mais peut-être cette division du travail, cerveau droit traitant les choses urgentes et imprévues, cerveau gauche faisant des choses plutôt des routines, pourrait être quelque chose d'assez général.
Voilà, qu'on partage avec d'autres.
Peut-être.
Question de neurologue, hein, ou de passionné du cerveau, qu'est-ce qui se passerait si notre cerveau était symétrique? Vous avez déjà essayé de répondre à cette question, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il était asymétrique.
Alors, je ne sais pas bien sûr répondre à cette question.
C'est des questions de neurologue, ça.
Il faudrait faire une simulation. Les gens se sont demandé pourquoi il y avait ces asymétries, et il pourrait y avoir une raison qui aide, disons, au point de vue de l'évolution darwinienne, d'avoir, par exemple, un système qui gère les urgences, qui soit latéralisé. Pourquoi? Parce que si je suis dans une forêt, je vois un tigre, tout ce que je dois faire, c'est m'échapper au plus vite. Non, vous êtes d'accord. Mais si les deux hémisphères doivent discuter.
Sauf qu'aujourd'hui, on rencontre moins de tigres. Oui, mais enfin bon, aujourd'hui, on a le coronavirus qui a l'air de faire le même effet que le tigre, finalement.
Mais on ne le voit pas, malheureusement.
Mais on ne le voit pas. Mais ça fait le même effet.
Tout à fait. Donc, on a dit que peut-être un avantage d'avoir un système latéralisé à droite pour la détection de choses urgentes à faire, c'est qu'il n'y a pas de discussion possible avec son homologue à gauche. Donc, quand une décision doit être prise au plus vite, ça pourrait donner un avantage. Donc, par rapport à la question que vous me posiez, si on avait un cerveau parfaitement symétrique, ça pourrait donner un léger désavantage, parce que dans une situation d'urgence, on devrait les deux hémisphères devraient discuter,
négocier,
avant de prendre,
et qui aurait la finale cote, voilà. Le pouvoir de décision, on ne sait pas.
Dans un cerveau parfaitement symétrique, on ne saurait pas.
Bon, donc la clé du futur, si j'ai bien compris, c'est gouverner avec le cerveau droit.
Pas du tout, non. Il faut toujours utiliser les deux moitiés de son cerveau.
C'est ça que ça veut dire, finalement. Il y a des façons de les solliciter de façon consciente, ces deux moitiés.
Mais...
Parce que les gens aiment bien, vous savez, aujourd'hui, on est dans l'ère des exercices du cerveau, le sport cérébral, vous savez.
Oui, je ne sais pas ce que ça vaut tout ça, mais par contre, non, une chose qu'on voudrait essayer nous-mêmes de faire, c'est d'utiliser le neurofeedback. C'est-à-dire... si on met par exemple des
électrodes. Alors on a fait une émission il n'y a pas longtemps justement sur ces électrodes, hein, parce que j'ai vu que la communauté scientifique est divisée sur ce procédé de neurofeedback.
Donc, ça c'est des hypothèses sur lesquelles on travaille justement en ce moment. Hein. Je ne sais pas encore ce que ça donnera, mais je pense que dans les cas par exemple d'une lésion cérébrale, un moyen pour compenser par exemple une négligence ou aussi une aphasie, un trouble du langage après lésion gauche, c'est celui de mieux faire parler les deux hémisphères. On a des données qui vont dans ce sens-là.
Mais dans ces cas-là, est-ce que ça veut dire que c'est le cerveau qui se répare lui-même, tout seul ? Est-ce qu'on arrive à évaluer justement ce pouvoir
Ce que l'on a vu est que les patients qui récupèrent mieux au moins d'une négligence sont ceux qui ont des meilleures connexions du corps calleux, justement, entre les deux hémisphères. Comme si, c'est notre hypothèse, comme si l'hémisphère gauche, l'hémisphère sain, pouvait aider à compenser les déficits de l'hémisphère droit lésé, mais seulement s'il pouvait recevoir des informations ou échanger des informations avec l'hémisphère lésé. Un hémisphère gauche isolé n'arrivait pas à compenser.
Mais dans les cas de maladies de Parkinson, par exemple, d'épilepsie, tout ça, est-ce qu'on arrive à mesurer les résultats ou pas encore ?
Là, c'est des tableaux cliniques très différents. Je parle pour l'instant d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux, qui sont relativement, disons...
Légers, vous voulez dire ?
Non. Non. Pas légers, mais qui nous offrent des possibilités de tester ce type d'hypothèse. Donc, est-ce que l'hémisphère sain peut compenser ? Et on pense que si on le fait, c'est une idée qu'on voudrait développer, si on fait parler mieux des hémisphères qui ne se parlent pas trop après une lésion cérébrale, ça pourrait améliorer les possibilités de compensation du patient. Et peut-être le neurofeedback pourrait avoir une place dans cela.
Et le neurofeedback, ce sont donc des électrodes qu'on place...
On peut le faire avec plusieurs techniques, mais par exemple, oui, une technique très utilisée, c'est de faire un EEG, un électroencéphalogramme, simplement, de placer des électrodes sur le scalp, sur la tête, de voir l'activité électrique et d'enseigner au sujet de changer son activité électrique en lui faisant faire des tâches. Donc en donnant un feedback, c'est pour ça que ça s'appelle neurofeedback, un feedback au sujet par rapport à son activité cérébrale pendant qu'elle est enregistrée. De cette façon, on pourrait peut-être trouver les moyens d'encourager les activités intégrées entre les deux hémisphères, donc de faire parler les deux hémisphères. Mais c'est encore une idée à développer.
Bien. Paolo Bartolomeo, vous êtes neurologue, directeur de recherche à l'IMSERM, et vous publiez donc Pensez droit, montrez votre livre pour ceux qui regarderont la vidéo de cette émission, la captation. Pensez droit, attention, empathie, émotion, les vrais talents de votre cerveau droit, c'est chez Flammarion. Merci de ce bon moment passé avec vous.
Merci de votre invitation.
Passez une très belle journée santé sur Beurre FM. Vous réécoutez le podcast de l'émission sur beurrefm.net et bien sûr l'émission est sur la chaîne YouTube.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.